Nous allons maintenant parler pendant les deux heures qui viennent des sondages et usages des sondages. Quel impact ? Donc nous entrons dans une medias res, hein, dans la réalité des choses de la démocratie d'opinion et des courts-circuits. Nous avons pour en parler deux spécialistes de métier. Ceux qui auront regardé la programmation de près auront vu que je me suis efforcé de faire appel à la fois à des professionnels, de la réflexion, à des professionnels de l'action, à des professionnels de l'étude de l'opinion. Donc tout cela est... Toutes ces sortes d'approches sont représentées. Donc là, nous avons deux professionnels de la profession dans le domaine des sondages, Stéphane Rosès à ma droite et Brice Teinturier à ma gauche. Donc je vais les présenter tout de suite, l'un et l'autre à la fois, puis ensuite ils interviendront chacun de leur côté. Donc Stéphane Rosès est né en 1957. Il est actuellement président de la société CAP, Conseil, Analyse et Perspective, et maître de conférence à Sciences Po, chargé de cours à HEC. Il a fait une grande partie de sa carrière dans le domaine, justement, des sondages d'opinion, des instituts d'opinion, puisqu'il a été chargé d'études à l'Institut Brûlé-Ville Associé, BVA, puis ingénieur en chef chargé d'études à la Société française d'enquête par sondage, à la SOFRES. Puis, depuis 2000, il était directeur adjoint à Conseil Sondage Analyse, CSA, non pas le CSA, mais la société CSA. Et depuis 2009, il est président de CAP, Conseil Analyse et Perspective. Il a été éditorialiste à l'événement du jeudi. Vous l'entendez souvent aussi dans les émissions de radio et l'émission de télévision. Donc voilà son parcours de professionnel. Il a écrit de nombreux articles et des contributions régulières dans le débat. L'état des États-Unis, l'état de la France, participation régulière. Voilà, je vous renvoie d'ailleurs aux documents que vous pouvez avoir. Quant à Brice Teinturier, il est directeur général adjoint de TNS Sofres. Il est né en 1963. Il a diplômé de l'Institut d'études politiques, DEA de philosophie et d'études politiques. Il a commencé dans les études qualitatives en 1987, puis s'est tourné vers les études d'opinion à partir de 1989 en tant que directeur d'études chez Louis Harris. Il a rejoint l'IFOP de 1991 à 1996. Il a rejoint TNS Sofres avec une double mission, diriger les études qualitatives, je crois qu'il nous parlera des sondages qualitatifs, et diriger le département politique et opinion. Il est auteur de nombreux ouvrages en compagnie de Pascal Perrineau et Olivier Duhamel, et vous pouvez le voir et l'entendre régulièrement dans les médias, que ce soit télévision ou radio. Moi-même, j'ai pensé à l'inviter après l'avoir rencontré sur un plateau de télévision et l'avoir apprécié. Voilà. Donc, je passe la parole d'abord à Stéphane Rosès pour nous donner son point de vue du point de vue de sa pratique. Et puis ensuite Brice Teinturier, et ensuite il y aura un échange qui pourrait être d'abord à partir de la salle, puis aussi entre eux, et que je modérerai. Voilà, merci. À vous Stéphane Rosès.
Merci de votre accueil. À l'énoncé des biographies de Brice Teinturier et de moi, vous l'avez compris, ça a été dit, nous sommes avant tout des professionnels. Et donc ce que nous allons vous relater, à la fois en termes de réflexion sur la problématique posée, et à la fois sur ce que l'on comprend de la façon dont fonctionne l'opinion dans son rapport au sondage, dans son rapport à la société. Ça ne vient pas de travaux universitaires, ça provient d'un souci de professionnel qui, au bout d'un certain temps, travaillant pour les entreprises, les gouvernants, les territoires, des pays, s'interroge sur comment ça fonctionne. En la matière, d'ailleurs, je crois qu'il faut le dire, souvent, quand il s'agit de sondages d'opinion et de gouvernants, ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. On en parlait avec Brice au café. Nous allons utiliser des exemples peut-être un tout petit peu anciens, et en tout cas les choses sont peut-être éventuellement plus faciles pour moi puisque je suis passé de la direction d'un institut de sondage à une société de conseil. Mais les exemples concrets référeront à des exemples un peu anciens ou relativement anciens. Je crois qu'il faut dire qu'il y a un paradoxe français dans le rapport du pays au sondage d'opinion. Quel est ce paradoxe? Nous sommes le pays au monde, je crois que c'est toujours le cas, où il y a le plus de sondages publiés. Et nous sommes le pays où la critique à l'égard des sondages d'opinion est la critique la plus forte. Et sans doute, je ne sais pas ce qu'en pense Brice Teinturier, mais le pays où finalement les hommes politiques, contrairement aux pays anglo-saxons, utilisent le moins des sondages confidentiels ou en tout cas avec professionnalisme, Nicolas Sarkozy étant peut-être une exception en la matière quant à la quantité et surtout à l'insertion des sondages dans une campagne, dans une stratégie électorale. Mais je crois qu'il fallait mettre en avant cette tension, car elle est au cœur du questionnement. Nous utilisons et recourons énormément aux sondages d'opinion, et dès qu'il y a une interrogation dans le débat public sur le sondage d'opinion, c'est la suspicion, et en tout cas de la part des politiques pour qui nous travaillons. Je crois que ça doit être le cas de Brice Teinturier. Quand j'ai quitté la profession, j'avais calculé que j'avais travaillé pour 17 candidats à des élections présidentielles lors de 3 présidentielles. Ils vous disent tous dans les médias, ah, ah, les sondages, vous savez ce que j'en pense, mais enfin, c'est eux qui essentiellement nous font vivre et font vivre les instituts. Donc il y a ce rapport ambivalent. Je crois que la raison profonde en est dans les deux termes, sondage et opinion. Je crois que nous ne voyons pas ce que nous disent des confrères étrangers, ce que nous disent les étrangers. Par exemple, j'ai été frappé par un interview dans l'Obs de William Boyd il y a 5-6 ans où il disait qu'il avait fait le tour du monde et qu'il avait été frappé de voir à quel point chez les Français il y avait une passion de l'opinion, il y avait une passion de la discussion. Les Français aimaient discuter de tout, de la mondialisation, de l'amour, des scandales financiers, du café, du vin, de la gastronomie. Et comme souvent on reproche aux sondeurs de sonder sur tout et n'importe quoi, le rapport des Français à l'opinion est un élément constitutif de notre identité, parce que derrière c'est la question de la politique, c'est la question de notre identité, c'est le fait que chez nous l'État s'étant fait avant la nation, être français, c'est se disputer ou discuter d'une opinion, sur une opinion. Et cette question est une question qui est tout à fait décisive, parce que lorsque nous faisons sondeurs, c'est le cas de Brice Teinturier, des réunions de groupe, que ce soit hors campagne électorale ou pendant les campagnes électorales, c'est tout à fait étonnant de voir comme toutes les catégories de Français s'emparent de la question politique. Ils n'en parlent pas forcément comme des politologues, mais ils s'en emparent avec passion, qu'ils aillent voter ou pas aux élections. Donc le sondage d'opinion est utilisé par les médias pour des raisons qui peuvent être des raisons d'image, qui peuvent être des raisons d'animation, de la rédaction, de surfer sur l'événement. Mais le fond de ça, c'est la passion française pour la politique, dont l'opinion est une précondition, forcément une précondition. Et la suspicion, c'est ce seraient les sondeurs qui nous diraient l'opinion, n'est-ce pas ? Cette suspicion est ancienne. Dans la salle du jeu de paume, où nous sommes évidemment émus d'être invités et de parler, déjà les philosophes du 18e alertaient. Il ne faut pas écouter la populace, il ne faut pas écouter les rumeurs. Seul l'esprit public, c'est-à-dire l'opinion éclairée par les philosophes que nous sommes, peuvent dire aux gouvernants ce qu'il faut en penser. Et ça me rappelait d'ailleurs un ouvrage d'Alain Minc, après 1995, où il alertait les gouvernants. Il disait aux gouvernants, faites attention, il ne faut pas suivre comme ça l'opinion majoritairement. Certes, les sondages, c'est la modernité, mais il faut que ça soit éclairé par ceux qui savent. Ceux qui pensent le monde. Eh bien, dans le moment démocratique qui est le nôtre, évidemment, nous sommes très éloignés du 18e. Et le rapport à l'opinion, le passage d'une opinion singulière à une opinion publique, c'est évidemment l'aspiration de chacun de considérer que le sujet n'est pas de savoir, quand il opine sur les affaires internationales ou sur les grandes choses, s'il a raison ou tort. Le sujet, c'est de dire « j'ai droit à participer à... » de façon égale à l'expression d'une opinion publique. Ça, c'est le passage de l'opinion à l'opinion publique. Et les mêmes dans nos études qui, durant les entretiens de groupe, nous disent qu'ils sont dubitatifs à l'égard des sondages en se demandant si les sondages ne manipulent pas ou n'influencent pas. Évidemment, il s'agit toujours du voisin d'à côté. Il ne s'agit jamais de soi. Et comme la suspicion à l'égard des sondages traverse de l'ouvrier au professeur d'université, tout ça fait d'excellents sondés et d'excellents citoyens. C'est une façon de dire, je vais rentrer dans les détails, que, évidemment, les gens ne sont pas passifs par rapport à l'image que renvoient les sondages d'opinion. L'opinion est valorisée, l'opinion publique est valorisée, le fait que ce soit des professionnels qui s'appellent des sondeurs qui viendraient en rendre compte, ou les médias qui les supportent, est évidemment questionné. Cette question de l'importance des sondages d'opinion dans leur publication et de l'importance de la critique provient, me semble-t-il, d'un autre phénomène qui est beaucoup plus récent. On peut dire que l'opinion, c'est un besoin naturel des individus, avant même le vote. Avoir une opinion, c'est une nécessité pour construire un imaginaire. L'imaginaire, c'est ni l'illusion, ni la réalité. C'est un mode d'accès à la réalité au travers de jugements des individus sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça remonte avant l'âge démocratique. D'ailleurs, dans les évangiles, le Christ lui-même demande à ses disciples ce que l'on dit de lui autour de lui. À partir du moment où le fait d'opiner est ce besoin naturel avant même l'institution de la démocratie, le sujet aujourd'hui, il est rendu plus compliqué, c'est-à-dire que les individus sont scindés. Ils ne se construisent plus, vous le savez, à partir de représentations collectives d'insertion, ou moins, que ce soit les classes sociales, les religions. L'individu construit son identité dans le rapport aux autres, mais il a besoin de recourir à l'idée que son opinion s'insère dans une opinion publique. Pas seulement pour dire « je fais partie de la majorité qui pense bien » ou « de la minorité qui pense bien », mais parce que l'individu lui-même est scindé. Il met aujourd'hui en avant des valeurs de l'ordre du commun, la République, la nation, la mixité sociale, l'égalité. Et dans ses conduites, il met l'autre à l'écart, il met l'autre à l'abri. Et donc, cet individu qui est scindé entre ces dimensions de consommateur, qui consommerait des produits, nonobstant le fait que, comme salarié, dans le cours actuel de la globalisation, il s'apprête les fondements de ce qu'est notre modèle social, et il connaît d'autres types de tensions entre celui qui veut consommer et qui s'interroge sur l'avenir de la planète. Ces tensions de l'individu font qu'il doit pouvoir se dire que son opinion comme citoyen, qu'il retrouve plus ou moins dans les sondages d'opinion, est quelque chose qui le dépasse, n'est-ce pas ? Par exemple, lorsque l'on vient présenter des études auprès des enseignants, ils sont toujours frappés, y compris les syndicats d'enseignants, de ce qu'ils ont une bonne image dans l'opinion. Mais ils disent, mais je ne comprends pas, parce que les parents d'élèves, quand ils viennent nous percuter, ils nous critiquent, ils demandent à, ils veulent même souvent dans les classes moyennes faire le travail à notre place. Oui, parce qu'au quotidien, les parents d'élèves initient une relation avec l'institution scolaire comme des usagers, voire des clients de l'école. Mais quand on les interroge comme citoyens sur le dévouement des enseignants, sur leur rapport au commun et au collectif, alors l'image des enseignants et même des syndicats d'enseignants est une image positive. Donc les individus ont besoin d'avoir cette instance qui s'appelle l'opinion du citoyen comme dépassement de leur propre contradiction. Alors, pour entrer directement dans le sujet, le propos liminaire étant un propos conclusif de mon expérience professionnelle et non pas un a priori théorique ou intellectuel, très certainement que les sondages d'opinion, quand ils sont livrés aux Français, dessinent une cartographie de l'imaginaire des individus, des groupes sociaux et des nations. L'individu au quotidien se déploie selon ses intérêts sociaux, ses représentations idéologiques, sa philosophie, son histoire personnelle. Mais l'imaginaire qui est le sien, pour s'approprier un réel, dépend des compromis qu'il institue entre sa représentation de ce qui est souhaitable et de ce qui est possible. Le fait qu'existent des sondages d'opinion qui disent « voilà ce que pense la majorité des Français », soit en termes d'analyse d'une situation qui dit le possible, soit en termes de souhaitable idéologique qui dit le normatif, encadre très certainement peu à peu l'imaginaire des individus. Il y aurait des choses qui momentanément seraient possibles et d'autres qui ne le seraient pas. Prenons un exemple qui me frappe beaucoup, le fait que depuis 15 ans, les Français pensent que demain sera pire qu'aujourd'hui, qui selon moi opère un renversement copernicien sur le rapport au collectif, au progrès, au type de modèle économique. Quelqu'un peut éventuellement le penser dans son coin, un autre non. Mais si décidément il se dit que ce qu'il pense individuellement est partagé par 2 Français sur 3, ça balise et ça encadre un imaginaire de tension et de construction entre le souhaitable et le possible. Un débat sur les retraites, c'est pareil, on le voit bien avec Brice Ceinturier, les Français sont sous tension, ils n'arrivent pas à résoudre leur tension, donc ils font confiance aux syndicats et à la négociation sociale pour pouvoir sortir de leur tension. Mais quand ils pensent qu'à la fois il faut réformer le système et pour le pérenniser, le sauvegarder, mais qu'à la fois il est bien normal qu'on travaille plus longtemps, puisqu'ils n'ont pas la jonction entre l'image qu'ils se font du recul de l'âge de la retraite et ce qu'est réellement l'activité professionnelle, ils disent on veut tenir sur la retraite à 60 ans comme symbole, on ne lâche pas la proie pour l'ombre. Ces processus de l'opinion des individus, des groupes sociaux par rapport aux tensions qui sont les leurs font qu'évidemment quand on leur dit le pays, comme je crois un sondage de la Sofres et de CSA, l'ancien institut où je travaillais dit la réforme est à la fois il faut la faire mais à la fois elle est injuste et est-ce qu'elle sera évidemment efficace, c'est quelque chose qui fait que ce que l'on pensait personnellement aurait un surcroît de légitimité si on est d'accord avec cette opinion majoritaire parce que c'est dit par les sondages et évidemment les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat, à l'Élysée, les personnes responsables de la réforme sont évidemment très attentifs à ça parce que là, contrairement à 95, il n'y a pas un mouvement social fort avec des processus de grève par procuration ou au travers des sondages d'opinion. L'opinion pense pouvoir faire peser parce que le pays est paralysé par les régimes spéciaux et les catégories qui y sont. Mais même, on voit bien, les politiques prennent ces éléments tout à fait en compte et l'opinion également. Mais les sondages encadrent l'imaginaire des individus, des groupes sociaux, des nations sur le compromis entre le souhaitable et le possible, mais les sondages ne sont pas un GPS. Les sondages, en aucun cas, ne donnent la direction des choses. Lors de chaque campagne électorale, quand on suit les campagnes de sondage, il y a toujours 4 ou 5 moments de renversement de tendance. Et même lorsque les choses sont très massives, quand le oui au traité constitutionnel européen était à 60% et que brutalement il baisse de 14 points pour basculer au non, c'est donc la preuve que le basculement du oui au non ne provient pas du côté d'un caractère panurgique de l'opinion. Non, ce qu'il y a entre les deux, c'est la directive Bolkestein qui indique que l'Europe élargie, ce n'est pas l'Europe puissance politique, économique et sociale telle qu'on le voudrait dans la globalisation, mais l'Europe élargie, c'est le cheval de Troie dans la globalisation, dans la conception très française que nous avons de l'Europe. Donc nous avons une opinion qui suit très attentivement les choses et qui ne se détermine pas en fonction, fondamentalement sur les grandes questions, en fonction de ce que disent les sondages. Et d'ailleurs, dans cette campagne référendaire, à partir du moment où l'opinion se saisit de la campagne référendaire, en détournant un texte qui était le meilleur compromis possible venant de l'extérieur en constituante nationale, qui selon moi est le vrai départ de la campagne présidentielle, à partir de ce moment-là, dans les études d'opinion, les Français nous disent qu'ils ne sont plus influencés par les médias, dont les sondages sont un élément, mais qui sont influencés par les discussions en famille, par les discussions dans les quartiers. En un mot, quand le pays se saisit d'un problème de fond sur la question des finalités, du pourquoi, car nous sommes un pays du pourquoi et non pas un pays du comment, alors ce que disent les médias et sans doute les sondages a une part encore plus relative. Mais dans les dynamiques électorales, c'est vrai, les sondages peu à peu construisent des éléments de récit. Mais contrairement à l'intitulé de la conférence, n'est-ce pas, on dit les sondages d'opinion impactent l'opinion. Oui, mais enfin, quand on fait des sondages, on fait déjà des sondages sur l'opinion. L'exemple que je trouve intéressant de la période récente, c'est l'exemple Ségolène Royal lors de la présidentielle. Ségolène Royal existe dans l'opinion avant qu'elle ne soit une favorite de Paris et des élites. Ce n'est pas parce que Paris et les élites n'ont pas compris ce qu'il y avait dans l'investissement du pays dans Ségolène Royal qu'il faut ramener comme une variable explicative de ce qu'on ne comprend pas le phénomène comme étant un phénomène des médias et des sondages, n'est-ce pas ? Il y a eu, de même, lorsque les militants du Parti socialiste très majoritairement votent Ségolène Royal à ce moment-là, c'est pas contrairement à ce qui est dit, en tout cas c'est mon analyse, j'en ai souvent débattu dans d'autres lieux, ce n'est pas essentiellement parce que les militants socialistes voient que c'est Ségolène Royal qui aurait le plus de chances de battre Nicolas Sarkozy, donc on va voter pour elle parce que quand même on veut battre Nicolas Sarkozy, je n'en crois rien. C'est parce que quand même, un peu, les militants socialistes et surtout les nouveaux adhérents du Parti socialiste ressemblaient un tout petit peu à ce qu'investissait à ce moment-là l'opinion de gauche dans Ségolène Royal. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'opinion a une influence sur le personnel politique et les médias. C'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. Je ne sais pas ce qu'en pense Brice sur le fond, mais autant, vous l'avez compris, je modère beaucoup l'impact des sondages, de l'opinion, des médias sur la direction majoritaire d'un pays et dans ces grands moments que sont les campagnes électorales, autant, évidemment, reprenons l'exemple de 95, je l'ai en tête. Quand les instituts de sondage mesurent que 2 Français sur 3 soutiennent le mouvement social, en rupture avec l'attitude de l'opinion à l'égard des précédents mouvements sociaux, les médias, TF1, France 2, France 3, RTL, Europe 1 et tout, évidemment le contenu de leur travail rédactionnel est un contenu qui est évidemment qui prend un tout petit peu en compte cette donnée-là. On a beau avoir des opinions de droite ou de gauche, quand on dirige un grand média, on est d'abord sur des parts de marché. Et les parts de marché qui nourrit le marché publicitaire fait que c'est le même individu qui est consommateur et citoyen. Alors si 2 Français sur 3 soutiennent le mouvement social et qu'on commence à faire ce qu'on racontait dans les précédents mouvements sociaux, c'est-à-dire les fonctionnaires, c'est quand même des privilégiés qui bloquent le pays, qui nous obligent à nous lever à 4 heures du matin, vous imaginez ce que ça veut dire très rapidement sur les courbes d'audience. Donc il y a ce phénomène qui est un phénomène qui est évidemment un phénomène objectif qui tout de suite colore, ce qui fait que jusqu'à la fin du mouvement social de 95, j'avais suivi ça très attentivement parce que je travaillais pour le gouvernement de l'époque, jusqu'à la fin les médias évidemment donnent une tonalité et rendent compte du conflit social de façon très différente que si les sondages disaient que seul un tiers des Français soutenaient le mouvement social. Quant au personnel politique, évidemment la sélection des enjeux est un élément qui est tout à fait décisif, la compréhension des choses. Bon. Et là il faut le dire, c'est mon dernier point, parce qu'il ne faut pas que je sois trop long et je suis déjà bien avancé, mais excusez-moi si je suis un peu à coup de serpe. C'est que je crois que l'opinion et les sondages d'opinion influent, mais ne gouvernent pas. Ils influent notamment, très certainement, dans les moments électoraux. Très certainement. Alors, comme la présidentielle et dernière présidentielle est un peu ancienne, je vais pouvoir indiquer à quel point, de ce point de vue-là, le travail de Nicolas Sarkozy pendant la présidentielle, au travers de l'essentiel de nos travaux à nous sondeurs, c'est-à-dire les travaux confidentiels, sont importants. C'est très bien relaté dans un livre que je vous conseille, qui est le livre de Yasmina Reza, où Yasmina Reza, qui a suivi la campagne de Nicolas Sarkozy, montre à quel point Nicolas Sarkozy a dû, durant cette campagne, et a su se hisser à la hauteur de ce qu'il comprenait intellectuellement. C'est quelqu'un qui travaille, qui est intelligent, qui a su se hisser à la hauteur de ce qu'il comprenait que le pays attendait de lui. Lorsqu'est envisagé, j'ai eu la chance de travailler avec Emmanuel Mignon bien en amont sur les études qualitatives, lorsqu'au départ est envisagée la campagne de Nicolas Sarkozy, elle est envisagée un tout petit peu autour de problématiques comme la discrimination positive, une campagne moderne, et puis les équipes travaillent. Les équipes travaillent. Le travail, ben, on est passé de la discrimination positive à La Nation, à De Gaulle, à Jaurès, et Henri Guénaud est toujours à l'Élysée. Donc l'impact des études d'opinion confidentielles sur la compréhension de ce qu'un pays investit à un moment donné, qui fait que le pays s'est rué aux urnes. Le pays, à la dernière présidentielle, s'est rué aux urnes. Les personnalités de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy avaient ça en commun, qu'ils avaient bien compris, l'un et l'autre, au travers d'outils et d'intuitions différentes, mais ce qu'ils avaient compris l'un et l'autre, c'est que tous ceux qui nous disaient que le pays devait aller en fonction de contraintes extérieures, de l'ordre de l'intelligence, de la compétence, de Bruxelles, de Matignon, de la complexité du monde, alors même que le pays ne se reconnaît plus dans cet extérieur-là, n'avait absolument aucune chance à cette présidentielle. L'opinion est allée chercher au travers des sondages des personnes comme Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy qui avaient comme point en commun de dire au pays là où on va aller puisque l'Europe n'est plus la France en grand après le non au référendum, c'est ce que nous en aurons décidé, vous et nous. Et cette seule posture, cette seule façon d'être a fait que les Français se sont rués aux urnes. Et ils se sont rués aux urnes parce que le politique devenait un dépassement qui était remis à l'Élysée. Et évidemment, durant la campagne présidentielle, à partir d'outils très différents, de psychologie très différente, et puis de contenu de campagne très différente, Ségolène Royal jusqu'à Villepinte, c'est-à-dire le moment où elle annonce son projet, et Nicolas Sarkozy jusqu'à la fin, ont tenu ce propos, et très certainement que les études d'opinion et la compréhension de l'opinion a énormément influé. Alors quand je dis l'opinion influence mais qu'elle ne gouverne pas, c'est que je distingue très clairement le moment des campagnes électorales où c'est l'opinion qui a le là, parce qu'il y a le moment du vote. Parce qu'il y a le moment du vote. Que la nation, dans ses divisions, dans ses antagonismes sociaux, va s'exprimer au travers d'un dépassement. Ensuite, il y a l'appareil d'État. Et le cours actuel de la démocratie et la crise de la démocratie vient de ce que, dans le cours actuel du capitalisme, l'État se retire de la nation. Donc chacun essaye de trouver une clé de résolution de cette contradiction. Et donc, du coup, il y a de plus en plus une contradiction entre ce qui est dit durant les campagnes, qui dit la nation, et les politiques des États qui, insérés dans des contraintes bien autres que les demandes de la nation, prennent en compte des variables bien différentes. Et pour faire image, les baromètres de popularité ont évidemment beaucoup moins d'importance que le CAC 40. Lorsque je travaillais sur la réforme Juppé en 1995, il y avait un premier module de la réforme qui a été retouché par Jacques Chirac ensuite, suite à une discussion avec Jean-Claude Trichet expliquant que les marchés financiers ne comprendraient pas qu'on ne fasse pas une vraie réforme, n'est-ce pas ? Donc, vous l'imaginez bien, ne soyons pas naïfs, n'est-ce pas ? Ne soyons pas naïfs, les grandes décisions de nos gouvernants, une fois qu'ils sont au gouvernement, les grandes décisions, c'est un arbitrage entre le prix à payer quant à leur rapport à la nation et puis des contraintes qui sont des contraintes financières, économiques, où les logiques sont plus importantes. Mais vous le voyez, d'ailleurs, je ne renvoie pas, je ne dis pas il y a d'un côté les individus et de l'autre les marchés, je ne dis pas il y a d'un côté la vraie démocratie et puis de l'autre l'opinion. Non, chaque individu veut le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Chaque individu veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut à la fois le progrès, la préservation de la planète, il veut le social. Et normalement, c'est aux politiques de résoudre cette équation. Donc les choses sont évidemment mille fois plus compliquées que ce que l'on raconte en général, ce dont on est inondé dans les médias, sur l'opinion, les sondages, les gouvernants. Enfin, je termine, puisque l'on parle de démocratie, il n'y a qu'un seul sujet, moi j'ai quitté le secteur des sondages, c'est s'assurer que ceux qui disent à un moment donné l'opinion le fassent en toute indépendance. Et là, il y a une tension. Ce qui fait vivre les instituts de sondage à 90%, ce sont les commandes privées. Et quand les sondeurs donnent des chiffres, il arrive quand même très souvent et de plus en plus souvent qu'ils énervent et agacent les gouvernants qui les font vivre de façon privée. Alors je le dis tout de suite, j'ai quitté ce métier des sondeurs. La profession des sondeurs est une profession qui est une profession globalement très honnête et très indépendante. C'est-à-dire que chacun est confronté au quotidien, évidemment il ne va pas en parler, à des questions d'ordre déontologique sur les formulations, les commentaires. Et véritablement, on a la chance en France d'avoir des grands instituts de sondage dont les dirigeants savent tenir la barre. C'est-à-dire, bah oui, on fait un sondage qui déplaît au pouvoir du moment. Eh oui. Et par ailleurs, ce pouvoir du moment fait essentiellement vivre. Mais je crois que, contrairement à ce que disent certains, le fait que c'est le cas de Brice également, le fait d'avoir à côté des activités d'enseignement, d'avoir une image d'une déontologie, d'une profession, le fait qu'il y ait une commission des sondages quand elle fonctionne, le fait d'être concurrent, quand on est concurrent, s'il y a un sondage qui le même jour dit noir complètement et l'autre blanc, ça fait que ça aide plus la personne qui aurait le sentiment qu'il faudrait laisser passer les choses. Donc il y a un esprit, donc ça c'est la première chose qui me rassure, mais je le dis, c'est une question vraie et sérieuse, une question d'indépendance et de déontologie. Il y a une seconde chose qui me rassure, c'est ce que je disais au tout début. C'est que, par définition, le français est critique à l'égard des médias et des sondages. Donc il le prend comme un élément d'information, ça encadre son imaginaire. C'est pas lui qui a la maîtrise pour savoir si à la prochaine présidentielle il faudrait qu'il y ait seulement Nicolas Sarkozy, mais aussi Jean-Louis Borloo ou Christine Boutin ou Monsieur Morin. C'est pas lui qui maîtrise ça. Mais dès qu'il a la possibilité, quand on rentre dans un jeu politique, de donner son avis, il le donne. Et ce qui me frappe dans la dernière période, alors vous pourriez me dire, oui, mais le sondeur, il est victime du syndrome de Stockholm, c'est que finalement, on arrive assez bien à comprendre les logiques du pays. Et que finalement, quand les gens décident de ne pas aller voter, ou de voter telle ou telle chose, on peut en rendre compte avec une très grande rationalité. Donc je suis, et je crois que vous avez raison, je suis finalement assez rassuré sur les grands principes fondamentaux de notre pays quant à la capacité d'avoir une opinion qui ne soit pas seulement mesurée par les sondages, mais éclairée au mieux en fonction de ce que l'on peut proposer comme élément d'évaluation aux citoyens. Voilà, merci de votre attention.
Brice Teinturier, maintenant, à vous.
Bonjour, merci tout d'abord de nous accueillir. Merci à Yves Michaud de son introduction et puis de sa précaution sur l'usage des latrines qui permet à l'intervenant stressé de se dire que si les gens se lèvent, ce n'est pas forcément parce qu'on les ennuie ou parce qu'on n'est pas clair. On peut avoir au moins cette illusion. Je suis d'accord avec 98% de ce que Stéphane vient de vous exposer. Donc, je vais essayer d'abord de prendre le point de vue du naïf et d'essayer avec vous de comprendre pourquoi il y a tant de critiques des sondages et d'essayer d'y répondre aussi à travers la connaissance de l'outil. On peut en effet se dire naïvement que le sondage a quand même trois extraordinaires avantages qui devraient faire peut-être l'unanimité autour de lui. C'est d'abord une technologie extraordinaire qui permet en 48 heures et pour des coûts de plus en plus faibles de connaître ce que les gens pensent et pourquoi ils le pensent. Donc c'est un outil aujourd'hui, je crois, de connaissance de l'opinion qui est imparfait, il faut le dire et le redire, mais indispensable et très riche. Et de ce point de vue-là, on pourrait se dire aussi que le sondage est vraiment précieux dans une démocratie. C'est également, deuxième élément, un élément de respiration de la démocratie. Quand le temps de l'élection, il ne s'agit pas de remettre naturellement en cause la légitimité qui est donnée par l'élection et uniquement par l'élection, mais quand le temps de l'élection se fait tous les 5 ans, tous les 6 ans, maintenant ce n'est plus tous les 7 ans, et que la complexité des problèmes arrive beaucoup plus rapidement, eh bien il est peut-être heureux que finalement cette technologie permette de faire remonter aux décideurs économiques et politiques ce que pensent les gens. Donc après tout, moi, je le perçois plutôt comme un progrès. Et puis, on peut se dire aussi que le sondage est un formidable outil de pacification de la vie politique. Si le problème de la démocratie est la régulation de la violence, eh bien, vous avez plusieurs modes de régulation de la violence. Il y a le vote, c'est ce qu'a inventé la démocratie avec le système de délégation. Au milieu, il y a la manifestation, qui n'est pas très violente, ou pas toujours. Il y a la pétition, éventuellement. Mais il peut y avoir les pavés et la violence. Et le sondage, c'est l'avantage peut-être de faire remonter les choses et donc de pacifier le système politique plutôt que de prendre les pavés. Et finalement, entre les chiffres et les pavés, eh bien, c'est peut-être pas plus mal qu'on puisse réguler une violence toujours potentielle à travers les sondages. Donc on peut se dire, voilà, très bien, et puis fermer le banc. Évidemment, ce n'est pas du tout cela. Et moi, je suis très frappé de l'espèce de fascination, de fantasme, de hargne parfois, qui se développe à l'égard des sondages, dont je remarque d'ailleurs qu'on passe de plus en plus des sondages aux sondeurs ou à monsieur un tel. Il y a maintenant une espèce de rituel de l'engueulade du sondeur. Je crois que nous y échappons de moins en moins. Stéphane en a été la victime, moi de même, nos prédécesseurs, Jérôme Jaffré ou Pierre Giacometti aussi. Et du coup, c'est quand même intéressant, c'est de se demander pourquoi y a-t-il une telle tension, une telle charge parfois à l'égard des enquêtes d'opinion. Alors, je passe évidemment très vite l'agacement tout à fait légitime et compréhensible devant la pléthore de sondages, il faut quand même le dire, parfois extrêmement stupide ou inintéressant, que nous sommes capables de produire. Mais finalement, il faut quand même vivre et ça fait partie, on va dire, un petit peu du jeu. Et je crois qu'il y a 5 ou 6 explications à cette espèce de tension qu'il y a dans le système politique à l'égard de cet outil et de cette profession. D'abord, il me semble que les sondages, et de ce point de vue les sondeurs peut-être aussi, ont volé aux hommes politiques, en partie, mais certains ont le sentiment que c'est une captation et un rapt, leur prérogative de parler au nom de l'électorat et au nom de l'opinion. Et là, il y a un tournant majeur, effectivement, dans l'histoire peut-être de la démocratie, dont certains acteurs politiques s'accommodent parfaitement en se disant qu'au contraire, les enquêtes vont leur permettre, s'ils les incorporent intelligemment, d'être plus précis, de mieux parler de ce que ressentent les gens, mais dont d'autres perçoivent l'outil comme une dépossession, une sorte de rabe, de concurrence déloyale, parce qu'en plus, oui, on peut se parer d'une pseudo-scientificité, on va dire, ou de l'échantillon représentatif, et donc il peut être difficile à un acteur politique de dire « je représente l'opinion » quand Stéphane Rosès va lui dire « mes chers messieurs, vous trompez totalement parce que 70% en réalité des Français pensent que ». Donc il y a un enjeu, il y a une concurrence qui peut apparaître comme très forte dans cette volonté hégémonique que peuvent avoir certains, et c'est une volonté qui est une forme de clôture, de vouloir prétendre au monopole de ce que pensent les gens. Et la technologie, la technique, le fait que l'échantillon soit représentatif vient créer cette tension. Alors, en réalité, moi, je pense qu'il n'y a pas du tout concurrence. Je pense qu'il y a un usage bon ou mauvais des enquêtes d'opinion, qu'il peut y avoir un usage pertinent et très fécond par les hommes politiques des enquêtes d'opinion, mais qu'il y a simplement une tension de plus en plus forte au niveau de la démocratie entre un vote qui est une capacité, une délégation, une habilitation à prendre de la décision et des hommes politiques qui, aujourd'hui, ont de plus en plus de mal à prendre de la décision parce qu'ils sont de plus en plus impuissants dans beaucoup de domaines, Stéphane l'a souligné, et du coup, certains qui s'accrochent de plus en plus à cette fonction qui est noble, qui est éminente, qui est nécessaire, de dire ce que le pays ressent. Mais là, il se trouve effectivement en confrontation avec les enquêtes d'opinion. Donc, premier élément, mais qui renvoie davantage, certes, à un tournant, je crois, de la démocratie, mais à un usage ou un bon usage des enquêtes et à des relations avec les hommes politiques et cette espèce de volonté hégémonique de détenir le discours. J'ajoute en passant que certains sondeurs prêtent tout à fait à ce reproche, tant ils peuvent apparaître péremptoires ou avoir des discours définitifs. Donc là aussi, c'est aussi une façon d'exercer le métier. Deuxième élément qui peut créer de la tension, les sondages ont de la même façon peut-être volé aux commentateurs avisés ou prétendus tels une partie de leur prérogative à faire l'analyse juste de ce que pensent les Français. Et là aussi, il peut y avoir deux façons de voir les choses. L'éditorialiste peut se réapproprier des enquêtes d'opinion, en faire son miel, et du coup avoir un point de vue avec plus de distance, plus d'analyse, plus de profondeur, que s'il part bille en tête sur ce qu'il pense être une analyse de l'opinion. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de critiques qui parfois laissent pantois de la part de certains éditorialistes ou journalistes, et je crois qu'on retrouve cette idée de concurrence. Et puis plus concrètement, il y a des choses, et là je rentre un petit peu dans la mécanique de fabrication de ce que nous pouvons connaître, qui sont effectivement tout à fait intéressantes entre ce que nous pouvons nous mesurer d'une prestation, par exemple télévisée, d'acteurs politiques, et ce que les journaux vont dire demain de cette prestation. Et quand vous avez la chance, et Stéphane et moi-même, on a souvent eu cette chance, de pouvoir réaliser des groupes qualitatifs en temps réel au cours d'une émission politique. Donc les gens suivent l'émission politique et on les interroge derrière. Vous pouvez donc savoir, vers 23h, minuit, 1h du matin, comment les gens ont compris et perçu l'intervention télévisée. Et que vous lisez le lendemain ce qu'un journaliste dit de la façon dont les Français l'ont très probablement perçu, eh bien de nombreuses fois, on a pu nous mesurer à quel point ces journalistes pouvaient se tromper. Pas toujours, mais parfois, ils pouvaient se tromper. Et je crois qu'effectivement, là, il y a aussi une tension et une source de tension, et qui a créé, alors pour le coup, progressivement, une espèce d'autocensure de la part des journalistes, que je regrette d'ailleurs. Je pense que la capacité à se tromper est plutôt une capacité d'expertise, sans faire du popper, ça fait partie du jeu. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que de plus en plus, nous voyons des journalistes qui attendent les résultats de l'enquête d'opinion pour dire qui a été bon dans le débat télévisé. J'étais très frappé, moi, de ce qui s'est produit lors du dernier second tour d'élection présidentielle et du débat qui opposait Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal. Là, on a vraiment eu le sentiment, pendant 48 heures, d'une presse qui hésitait à dire qui avait été bon. Et puis, les premiers sondages sont arrivés, et le système médiatique, qui est mimétique et amplificateur, a pour le coup embrayé, parce que les Français disaient que Nicolas Sarkozy avait été plus convaincant, eh bien le système a embrayé là-dessus. Donc il était à la remorque de l'outil, ce qui me paraît éminemment regrettable. Ce n'est pas parce que les Français pensent que tel ou tel a été pertinent dans un débat que cela doit dispenser les commentateurs d'une analyse de ce débat et d'un certain nombre de commentaires qui peuvent être éclairés, n'avoir rien à voir avec l'opinion publique sur l'argumentation qui s'est échangée dans ce débat. Mais il y a en tous les cas une tension qui s'est créée et effectivement des journalistes qui sentent bien qu'ils ne peuvent pas partir maintenant bille en tête sur voilà ce que les Français doivent se dire ou voilà qui est le vainqueur et qui sont, ce qui est une position éminemment déplaisante, en attente d'un outil qui leur est extérieur, même si la plupart du temps ce sont bien naturellement eux qui l'ont acheté. Troisième point qui crée de la hargne, je crois, dans les rapports entre démocratie, sondage, sondeur, et que Stéphane a évoqué aussi, c'est cette idée, mais je voudrais y revenir, de l'influence des sondages d'opinion sur les gens, sur l'opinion. Et là, nous avons, je voudrais essayer de tordre le cou à ce reproche sempiternel. Après, je vais en venir à de vrais reproches, à mon avis, qu'on peut faire aux enquêtes d'opinion, à des enjeux qui me paraissent plus fondés et plus sérieux. Mais juste deux minutes sur cette idée des sondages qui influencent négativement les lecteurs. D'abord, il n'existe pas de protocole argumenté, objectivable, permettant de démontrer que la publication d'enquêtes par sondage aurait des effets sur les électeurs, parce qu'on est incapable d'en mesurer ni la direction, est-ce qu'ils ont des effets qui vont pousser les gens, par exemple, à se mettre à la remorque de celui qui est indiqué comme étant en tête, ou est-ce qu'ils ont des effets inverses ? Un sondage peut aussi provoquer une mobilisation par antagonisme. Eh bien, on est incapable de mesurer, de démontrer ces effets, d'en mesurer la direction. Et on est incapable également d'en mesurer l'intensité, de dire si ça touche 5%, 10% ou davantage d'électeurs. Donc si on prend les choses un peu à froid, voilà, nous ne savons pas dans quelle mesure la publication peut influer réellement sur les comportements, et notamment sur les comportements électoraux, puisque c'est là-dessus que se polarise le fantasme. Nous ne savons pas, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a comme croyance comme vérité énoncée. Et je vais vous en donner juste deux. Vous vous souvenez tous, parce que ça a été un grand moment, un moment douloureux pour les sondeurs, mais pas que pour les sondeurs, du second tour de l'élection présidentielle de 2002. Et donc, on a beaucoup fait le reproche au sondage d'avoir fabriqué en partie ce second tour opposant Jean-Marie Le Pen à Jacques Chirac, puisque aucune hypothèse de second tour n'avait évoqué cette hypothèse, justement, et qu'on avait toujours mesuré Lionel Jospin face à Jacques Chirac. Et du coup, on a eu un déferlement, véritablement un déferlement de commentaires sur l'influence néfaste des sondages. Il y a même eu une association d'étudiants de Sciences Po, Sciences Po quand même censé être un des lieux de réflexion sur la politique, qui était monté en puissance dans l'entre-deux-tours pour prôner l'interdiction des sondages dans l'entre-deux-tours, tellement nous pervertissions le système démocratique. Je voudrais juste dire une petite chose, c'est que d'abord, si un sondage avait annoncé Jean-Marie Le Pen au second tour, je ne sais pas quel effet ça aurait eu sur les électeurs, je sais en revanche ce qu'on aurait dit sur ce sondage. On aurait hurlé à la manipulation. On aurait dit, qu'est-ce que c'est que cet institut qui, à quelques jours du second tour, comme ça, hop, sort Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac, c'est un sondage pour remobiliser les électeurs de gauche, vous êtes à la solde de Lionel Jospin, etc., etc. Voilà ce que nous aurions eu, c'est la seule certitude que je peux avoir. Mais nous ne savons pas, personne ne sait, en dépit des croyances et de ce qui est asséné, si un tel sondage aurait crédité et contribué à débloquer le vote Front National encore plus, ou si au contraire, il aurait remobilisé une partie des électeurs de gauche tentés par un vote d'extrême gauche ou tentés par l'abstention. Et ce qui est fascinant, c'est que nous ne savons pas, mais que les gens, en revanche, ont une opinion sur ce que ça aurait créé, et qu'on a eu une opinion extrêmement violente sur le sujet. Donc il y a des croyances, et ça pourrait être anecdotique, mais ces croyances se sont incarnées dans des lois. Et quand vous reprenez les débats parlementaires qui ont eu lieu en 1977 et qui ont produit l'interdiction de publication des sondages d'opinion pendant une semaine avant le scrutin, qui a été, Dieu merci, raccourci en grande partie par l'action des sondeurs, alors même que c'était contraire à leurs intérêts financiers, par parenthèse, mais peu importe, quand vous reprenez ces débats, vous vous rendez compte que vous avez, de manière implicite, à l'œuvre, une théorie de la décision politique, et que c'est une théorie, encore une fois, non démontrée et profondément injurieuse à l'égard de l'électeur. En gros, que nous disent ces débats? Ils nous disent qu'il faut protéger les électeurs de l'influence néfaste des sondages d'opinion, parce que l'électeur soumis à ces sondages est en gros un mouton assez passif qui va aller dans le sens de celui que les sondages mettent en avant. C'est-à-dire que le législateur, à l'époque d'ailleurs, avait tranché dans un débat scientifique qui ne permet pas de trancher, et lui affirmait qu'il n'y avait qu'une mobilisation, qui était une mobilisation de soutien, et il était totalement étranger à la mobilisation, au contraire, par antagonisme. Et cette théorie implicite consistait à dire que, en gros, eh bien, la décision politique, elle devrait se prendre dans une sorte de silence, comme ça, où il faudrait protéger ce pauvre citoyen de la perversion. C'est aussi le titre d'un article célèbre, les sondages comme la pollution de la démocratie. Donc il faudrait protéger ce pauvre citoyen de la perversion de ce que les sondages leur infligent. Alors, d'une certaine façon, ça rappelle un peu ce que disait Saint-Augustin. Noli foracire, interedi, interiore homine habitat veritas. Ne va pas au dehors, rentre en toi-même, c'est en l'homme qu'habite la vérité. Il faudrait construire une espèce de clôture. Sauf que la démocratie, elle s'est construite sur l'inverse de ça. Elle s'est construite sur l'échange, sur l'ouverture, sur l'argumentation. Et comme Stéphane l'a souligné, il n'est pas non plus étrange et illégitime qu'un électeur, si ça l'intéresse, prenne en compte ce que les autres lui disent, ou l'opinion telle qu'elle est mesurée par les Français, et qu'il en fasse son miel, soit pour soutenir, soit pour s'opposer. Donc cette idée de l'influence néfaste sur l'opinion, profondément enracinée, très souvent signe d'une pensée que je crois réactionnaire au sens technique du terme et pas polémique, et pour le moins une idée qui demanderait à être un tout petit peu objectivée. Et je crois que l'enjeu de la démocratie, des sondages d'opinion et du rapport entre les deux ne se situe pas à ce niveau. Il y a un quatrième reproche qui est peut-être, alors là pour le coup, maintenant un peu plus fondé. Ce qu'on reproche beaucoup aux enquêtes d'opinion, c'est ce que les Américains appellent le horse race, la course de chevaux, et l'idée qu'effectivement notre démocratie serait envahie de baromètres électoraux ou de popularité qui mesureraient qui est en tête. Et là, pour le coup, il y a probablement une transformation du cycle électoral en campagne permanente qui crée cet effet de saturation. Quand les gens disent, les commentateurs, il y a trop de sondages, je crois que c'est ça qui crée ce sentiment d'envahissement et qui donc transforme la temporalité de la démocratie. La temporalité de la démocratie, ce n'est pas les sondages qui la fabriquent. S'il y a des transformations, c'est pour bien d'autres raisons. Mais il me semble indéniable qu'effectivement, ces baromètres-là, même quand il s'agit d'indicateurs de popularité qui n'ont rien à voir avec le vote en réalité, créent de manière implicite une tension, une pression, comme si on était en permanence en pré-campagne présidentielle. Et là, pour le coup, on est dans quelque chose qui peut, entre guillemets, pervertir le système démocratique. De même, je crois aussi que les intentions de vote présidentielles réalisé 18 mois avant le scrutin, nous disent des choses intéressantes, mais sont parfois caricaturalement mises en avant comme des éléments qui seraient prédictifs, ce qui est naturellement totalement absurde. Alors ça, c'était les mauvais procès, à mon sens, qu'on peut faire au sondage et les agacements et les tensions. Il y a deux éléments, maintenant, sur lesquels je voudrais venir rapidement, qui posent, je crois, des réelles questions, des questions très sérieuses sur le lien entre les enquêtes d'opinion et la démocratie, sachant, vous l'aurez peut-être compris, qu'il me semble tout à fait absurde d'opposer de manière caricaturale l'espèce de mirage d'une démocratie représentative qui serait pure, qui aurait été pure, ce qu'elle n'a jamais été, au démon d'une démocratie d'opinion qui viendrait aujourd'hui briser la démocratie représentative. Mais le point, malgré tout, très sérieux, je pense, de l'influence des enquêtes, c'est leur influence, non pas donc sur les gens, mais sur les militants, incontestablement, et sur la sélection des candidats. Et c'est surtout sur ce point que je voudrais insister. Alors, les sondages ne créent pas le candidat, contrairement à une idée reçue. Je souscris totalement à ce que Stéphane a dit à propos de Ségolène Royal. Ce ne sont pas les sondages qui ont créé Ségolène Royal. Les sondages ont mesuré un effet qui était réel. Je me souviens avoir écrit un papier pour le Nouvel Obs à l'époque quand on parlait de pchit médiatique disant pourquoi ça va durer. J'avais juste des études qualitatives qui permettaient de comprendre les ressorts et ça a duré. Dans la comparaison à ses compétiteurs socialistes DSK et Laurent Fabius, Ségolène Royal l'emportait de manière écrasante parce qu'il y avait une demande de renouvellement. Ça ne voulait pas dire que dans la confrontation à Nicolas Sarkozy, elle allait l'emporter. Mais en tous les cas, les sondages ne créent pas un candidat. Et comme Stéphane l'a très bien démontré, je m'arrête tout de suite là. Malgré tout, il joue sur la sélection des candidats. Et ça, c'est une véritable interrogation. Alors, je vais vous donner juste quelques petits cas pour vous les rappeler. D'abord, les partis politiques nous commandent, c'est vrai, souvent longtemps à l'avance, 6 mois, 8 mois, des enquêtes pour départager des candidats potentiels qui voudraient se présenter dans une circonscription ou dans une municipalité. Et là, le but est de savoir si, entre Dupont et Durand, on va faire le choix en termes d'investiture pour le bon candidat. Alors, il y a là quelque chose qui n'est pas forcément scandaleux en soi. Mettez-vous à la place d'une entreprise politique. C'est un véritable enjeu de trouver le bon candidat. On est à 8 mois de l'élection. Comment est-ce qu'on fait? Après tout, l'enquête n'est pas forcément quelque chose de très néfaste. En même temps, on peut se dire aussi qu'il ne faut pas réifier ce juge de paix parce qu'il y aurait de multiples autres critères à prendre en compte et qui ne sont pas pris en compte. Or, les candidats eux-mêmes ont tendance à s'incliner devant le sondage qui va leur dire « c'est toi ou ce n'est pas toi ». Il y a des exceptions, évidemment, mais l'espèce de sondage, là, prend une valeur qui me paraît parfois démesurée. Deuxième élément qui nous montre cette relation qui est parfois compliquée, dans les sondages publiés cette fois-ci, c'est qu'il est clair qu'il faut décoller dans les sondages publiés et donner le sentiment qu'on a une chance de l'emporter ou au moins de faire un score honorable pour pouvoir être désigné et investi. Et je crois que il y a un cas extrême qui donne matière à réflexion, qui est le cas de Lipietz, le candidat, souvenez-vous, écologiste, en 2001, qui avait été désigné par les militants, et puis finalement qui a été remplacé en cours de campagne par Noël Mamère, parce que les enquêtes d'opinion montraient qu'il allait dans le mur. Ça nous montre bien que les enquêtes ont un impact réel sur la sélection et sur le choix des candidats. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose non plus. Est-ce que c'était une bonne décision de prendre finalement Noël Mamère à la place d'Alain Lipietz ou pas? C'était pas totalement absurde non plus. Les enquêtes d'opinion nous montraient à ce moment-là des choses qui étaient très réelles. En tous les cas, ça se discute. Mais c'est une vraie question Et c'est nouveau, je crois, la technologie crée quelque chose de nouveau parce qu'elle pose de manière plus brutale et fine la question de qu'est-ce qu'un bon candidat ? Comment est-ce qu'on doit choisir un candidat ? Qu'est-ce qu'un bon candidat ? Et elle transforme cette question par rapport à ce qui pouvait se faire il y a, disons, 20, 30 ou 40 ans, puisqu'aujourd'hui, le candidat doit faire le maximum pour exister dans les sondages. Et pour exister dans les sondages, il doit être visible et il doit être saillant en plus d'être compétent. Je dis bien en plus, pas à la place d'être compétent. Lors de la dernière élection présidentielle, aussi bien Ségolène Royal que Nicolas Sarkozy l'ont aussi emporté parce qu'ils étaient visibles et saillants dans les médias et qu'ils arrivaient sur des controverses à exister de manière forte. Après, il y a un jeu entre cette visibilité et la compétence. Donc ça ne se substitue pas, là aussi, contrairement à une idée reçue. Mais il est clair que le candidat, s'il veut être désigné, s'il veut l'emporter, c'est aujourd'hui qu'il doit faire avec ses enquêtes d'opinion pour ne pas être débarqué éventuellement en cours de campagne, comme à Lipietz, ou pour arriver à obtenir suffisamment de points et du coup aussi de couverture médiatique. Le rôle des enquêtes d'opinion est également important parce qu'il pèse sur le financement des candidats. Vous savez qu'au-delà du seuil de 5%, il y a un remboursement des frais de campagne. Et du coup, pour ce qu'on appelle de manière inappropriée les petits candidats, il y a un enjeu qui est important au début de campagne sur ce que nous pouvons mesurer. Vous êtes à 4% ou vous êtes à 5%, ce n'est rien, ça n'a l'air de rien, ça change tout pour le candidat, parce que ça lui permet ou pas d'avoir des prêts de la part des banques. Alors il faut être juste aussi là-dessus, il faut dire les choses. Les instituts de sondage sont soumis à des pressions de ces mêmes petits candidats qui, sans vergogne, et je viens de dire petit candidat et je ne devrais pas, parce que justement c'est un véritable enjeu, mais nous avons tous eu, je crois, des exemples dans les instituts de sondage de candidats qui ont hurlé au loup parce que nous les mesurions à 4%, donc qui nous traitaient de manipulateurs, parce que très souvent nous avons le choix entre être soit incompétent, soit manipulateur. Bon. Mais donc nous sommes manipulateurs si nous mesurons quelque chose à 4%, et puis si le même institut, un mois après, le mesure à 5% ou à 6%, ça n'empêche pas ce candidat de faire des communiqués pour glorifier et alerter la terre entière de son excellent score. Je ne lui en veux pas, il est face à une réelle contrainte, donc il essaye de faire bouger le système. Et il est vrai que, en fonction du niveau dans les enquêtes d'opinion, les médias vont plus ou moins s'intéresser à ce candidat, donc la couverture médiatique va jouer. Et comme la couverture médiatique va jouer, je vous ai dit que le couple infernal, c'est visibilité et crédibilité, s'il y a moins de visibilité, le candidat est handicapé. Et ça, je crois que c'est un véritable problème, puisque le système, finalement, favorise les candidats installés au détriment de ceux qui pourraient émerger. Or, nous avons beaucoup d'exemples de candidats qui ont démarré à un faible niveau et qui, après, ont beaucoup progressé. Donc, du coup, il y a véritablement un enjeu autour de cette question et ça existe encore beaucoup. Toujours dans la sélection des candidats, vous avez des situations très concrètes et compliquées à gérer pour les instituts, comme lors de la dernière élection présidentielle, lorsque nous ne savions pas quel allait être le candidat investi par le Parti socialiste et que les médias nous commandaient des intentions de vote. Et là, le dialogue se faisait de la façon suivante. Pour des raisons de coût, les médias nous disaient « Bon, on va prendre une hypothèse avec Ségolène Royal et puis DSK. Parce que Fabius, non, il est fini, tu vas pas nous embêter avec une hypothèse de vote avec Laurent Fabius. Ou François Hollande, bon, oui, peut-être, Jacques Lang, mais tout le monde sait qu'il ne sera probablement pas candidat jusqu'au bout, etc. etc. » Qu'est-ce que ça voulait dire, ce genre de discussion ? Que les médias, et du coup, les sondeurs, était en situation, un an avant l'élection, de décider qui avait le droit d'être dans le baromètre d'intention de vote et donc qui était un pré-candidat désigné à l'élection présidentielle. Moi, je me suis battu à l'époque avec, je lui rends hommage, avec le Figaro, parce que j'avais le Figaro comme partenaire à ce moment-là, et ils ont accepté que nous fassions des hypothèses de premier tour à chaque fois, à chaque vague d'enquête, avec 5 hypothèses de vote, en leur disant « ce n'est pas à nous, à vous et à nous, à décider qui finalement sera candidat ou pas. » Donc on mesurait les choses avec une hypothèse Jacques Lang, avec une hypothèse François Hollande, avec une hypothèse, etc. etc. Mais ce que j'ai pu faire une fois, je ne suis pas certain de pouvoir le refaire tout le temps, parce que ça a un coût, parce que la tendance est véritablement de vouloir avoir un nombre restreint, et je pense que réellement, il y a là un enjeu qui peut être majeur dans l'expulsion ou pas des candidats au moment de la présélection. L'autre aspect, et j'en terminerai avec ce point pour aller très vite sur le dernier, l'autre aspect, c'est que il faut aussi avoir à l'esprit que les politiques savent très bien se défendre et utiliser ce système-là. Je voudrais juste vous rappeler une toute petite anecdote très récente. Au soir des élections régionales, le Front National fait 11,6% des suffrages exprimés au soir du premier tour. Moi, ce que mon maître Jean-Luc Parodi m'a appris, c'est qu'on analyse un scrutin par rapport au scrutin qui lui ressemble. Donc on analyse le scrutin de ces régionales-là par rapport au régional de 2004. Par rapport au régional de 2004, le Front National avait fait 15% en 2004, il faisait 11,5% cette fois-ci. Par rapport au régional de 2004, le Front National faisait 1 350 000 voix en moins. Et le Front National fait systématiquement entre 4 et 5 points de plus aux élections régionales qu'aux élections européennes. Donc comme je sentais venir le coup, à un moment donné, j'ai essayé de dire, si le Front National fait entre 10 et 11%, comme il a fait 6% aux européennes, ce serait dans la norme d'un Front National affaibli depuis 2007. Mais on voyait bien qu'au-dessus de 10%, les gens allaient dire « c'est le grand retour du Front National ». Et donc pour ma part, j'avais dit « il faudra parler d'une remontée du Front National à partir de 11%, pas à 10-11. Le Front National fait 11,5%. Vous essayez d'expliquer ce que je viens de vous dire. Vous êtes totalement inaudible. On vous dit « c'est le grand retour du Front National ». Et pourquoi est-ce qu'on vous dit « c'est le grand retour du Front National » ? Parce que les sondages d'opinion ont sous-estimé le Front National auparavant. Et parce que Marine Le Pen a très intelligemment utilisé cette sous-estimation, on l'avait à 8,5-9 dans nos enquêtes, pour créer une grille de lecture, non pas de comparaison avec les résultats de 2004, mais de comparaison avec les anticipations des sondages d'opinion. Et c'est là où on voit que nous pouvons effectivement, nous-mêmes d'abord être manipulés, et surtout être acteur d'une grille de lecture, et c'est très compliqué d'essayer de mettre de la rationalité là-dedans et de ramener à des lectures qui nous paraissent pour le coup rigoureuses. Qu'au second tour, le Front National fasse un très bon score et qu'il soit effectivement déverrouillé, c'est incontestable. Là aussi, vous prenez les résultats du Front National au second tour, vous les comparez par rapport à 2004, il y a une véritable progression, je ne le nie absolument pas. J'attire votre attention sur le fait qu'au soir du premier tour, ce n'est pas le grand retour du Front National, mais que voilà, ça passe comme ça. Et qu'au soir du second tour, il y a un véritable retour du Front National. Dernier point sur ce qui me paraît être central dans la relation compliquée et intéressante de la démocratie et des sondages, l'effet de clôture de la controverse. Pour aller très vite, autant vous avez vu, je pense qu'on fait beaucoup de mauvais procès aux enquêtes d'opinion, autant il peut y avoir, c'est incontestable, des effets d'imprégnation quand on ne pose des questions sur les sujets, sur les thèmes, à répétition et qui expulse d'autres sujets. Si vous matraquez pendant des semaines et des mois avec des sondages qui ne concernent que la sécurité, au bout d'un moment, la controverse centrale se fait autour de la sécurité. On fait énormément de sondages aujourd'hui sur le climat, sur l'environnement. On n'en fait pas du tout sur le progrès. Moi, je ne vois plus de sondages, on ne nous en demande plus, sur le rapport à la science, le rapport au progrès, etc. Donc là, il y a des choses qui sont importantes et qui se jouent dans ce qu'on appelle des effets de cadrage. Et puis, il y a également, toujours dans ces effets de clôture, ce que moi j'appellerais le sondage censeur, et qui peut intervenir dans une campagne électorale, et c'est important, et c'est compliqué à gérer. Songez, au moment de la dernière présidentielle, à un moment donné, Nicolas Sarkozy dit que la justice remet en liberté des délinquants qui sont arrêtés par la police et qui le lendemain se retrouvent dans la rue. Vous avez un sondage qui est réalisé, qui soumet aux Français cette phrase, il y a une approbation des Français, eh bien, on est dans le sifflet, il n'y a plus rien à dire. Or, ce qu'avait dit un des candidats là, ce que disaient les Français, n'épuisait pas le sujet des rapports entre justice et police. Tout simplement, il est extrêmement difficile, par rapport à un 70% des Français pensent que, de réouvrir le sujet et de dire ça n'épuise pas l'argumentation. Et la démocratie, ça repose, malgré tout, sur des échanges argumentatifs, sur des échanges d'offres et sur le choix éclairé ensuite des citoyens. Donc vous le voyez, il y a des éléments je crois, qui sont non pas problématiques, mais qui révèlent des transformations de la démocratie dans la relation avec les sondages d'opinion. Il y a des faux procès. Et juste en une phrase, parce que Stéphane l'a très bien dit, le gouvernement au sondage, quand vous travaillez dans un institut de sondage, c'est une vaste blague. Et moi, j'essaye plutôt de consoler mes chargés d'études en leur disant, si le décideur utilise 15% de l'enquête que nous lui avons remontée, il faut être très content, nous avons été utiles. Notre expérience, à de très rares exceptions près, c'est plutôt qu'on est dans un pays où le recours aux enquêtes d'opinion est peut-être important, mais leur utilisation est en réalité encore extrêmement superficielle, pour le meilleur ou pour le pire. Mais comme nous avons en France le mythe de l'homme providentiel, qui arriverait et qui résisterait comme ça à la pression de l'opinion, on a tendance à faire ce procès du gouvernement au sondage et d'hommes politiques qui gouverneraient en fonction de ce que souhaitent les Français. Ce n'est pas du tout, et là c'est vraiment le professionnel qui vous le dit, ce n'est pas du tout la réalité que nous pouvons constater. Merci.
Bien. Nous allons passer aux questions. Vous voyez l'intérêt, je suppose, qu'il y a de laisser parler longuement les professionnels. Maintenant, à vous de leur poser des questions. Je suppose qu'ils ne manqueront pas. Attendez, une seconde, on vous passe un micro. Alors, des questions, si possible, rapides, pour qu'on puisse y répondre. Il y a un monsieur ici.
Bonjour. Je voudrais revenir sur de la lecture et de l'utilisation des sondages. Je vais prendre l'exemple déjà traité par M. Rosès, l'élection de 2002. Vous savez, en 2002, il existait déjà une émission politique du mercredi soir qui avait un autre nom. Et 10 jours avant l'élection, le but de cette émission était d'évaluer ce qu'avaient produit les sondages. Et M. Rosès était à cette émission. Et le présentateur est parti bille en tête pour donner quelles seraient les conditions pour que Jospin gagne en ne parlant que du deuxième tour. Et M. Rosès s'est écrié, « Oh là, attention, avant de parler du second tour, moi, je voudrais que nous parlions du premier. » Et le conducteur de l'émission lui dit, « Ah, comment ça, M. Rosès ?» Et lui, il répond, « Mais nous tous, nous savons qu'il y a un sondage non publié où Le Pen, Chirac faisait, je crois, 19,4%, Le Pen faisait 17,2% et Jospin 16,4%. Et alors, à partir de cela, le débat a tourné autour de Jospin qui était déjà en inférieur. Et moi, je vous dirais, je devais partir à Cuba pour le travail. J'avais donné à mon fils des instructions pour poser à ma place. Je les ai modifiées vis-à-vis de cette réponse. Et au moment donc Chirac a été bien sûr élu. En fait, quand j'étais à Cuba, il y a quelqu'un qui arrive à la table le dimanche soir et qui me dit, monsieur, vous êtes français? Je lui dis oui. Il me dit, vous savez que monsieur Le Pen vient d'être élu. Comme c'était le premier tour, je savais que les points de vue de monsieur Rosès avaient très bien passé. Donc, pour ajouter une dernière chose, c'est que au moment dans les élections,
vous voulez demander si Monsieur Rosès se souvient.
Suivi, le chef de campagne de Monsieur Jospin était venu chez nous à Dammartin, et je lui ai demandé pourquoi n'avez-vous pas tenu compte de ce sondage. Et il me dit, on le savait tous, mais si nous en avions tenu, on avait peur que ça ne fasse pire encore.
Est-ce que vous vous souvenez?
Je me souviens de ce que disaient les sondeurs.
Manifestez-vous pour les.
Je me souviens de ce que disait la communauté des sondeurs dans la dernière semaine. Et je me souviens de la façon dont les médias ont réagi. Et je voudrais revenir sur ce qu'indiquait Brice Teinturier. Je ne crois pas qu'il y ait eu avant le premier tour un sondage qui donne Jean-Marie Le Pen devant Lionel Jospin. Par contre, ce que je sais, et Brice Teinturier y faisait référence, et ça a été évoqué dans ce débat à Sciences Po où j'étais également, face à des étudiants qui pensaient que c'était vraiment une bonne idée démocratique face au Front National de demander aux sondeurs d'eux-mêmes, si d'aventure Jean-Marie Le Pen l'avait emporté, de préparer les choses et que la démocratie, en interdisant les sondages, aide éventuellement à sa remise en cause. Effectivement, on avait pu s'expliquer devant les étudiants, et c'est très bien que les sondeurs s'expliquent. Et c'est dans les films relatés sur la campagne électorale de Lionel Jospin avant le premier tour. Les sondeurs n'avaient en aucun cas de sondage confidentiel disant Le Pen, en termes de photographie, pourrait être devant Jospin. Par contre, si on poursuivait les courbes de tassement de Jospin et de montée de Le Pen, les sondeurs, nous avions prévenu confidentiellement l'équipe de campagne de Lionel Jospin. Et il y a un film du QG de campagne de Lionel Jospin qui montre le monsieur sondage de Jospin qui dit « Le Pen peut être au deuxième tour, je n'y crois pas, j'y crois statistiquement, mais je n'y crois pas politiquement. » Un de ses camarades du Parti Socialiste lui demande de s'expliquer. Alors effectivement, nous avons fait notre travail. C'est pour ça que je suis d'accord avec Brice Teinturier, nous aussi de notre côté à CSA, on avait fait un communiqué en disant « Nous avons bien travaillé. Nous avions un Front National derrière, mais si on poursuivait les courbes, et j'imagine que c'est à ça que vous faites référence, monsieur, effectivement, avant le deuxième tour, il y avait un premier tour. Et c'est sans doute, je fais partie de ceux qui pensent que si Lionel Jospin a perdu cette présidentielle, c'est absolument de sa faute et de personne d'autre. Parce que lui-même avait théorisé, à tort, que la vraie bataille serait une bataille de deuxième tour autour de l'idée que ce sera un combat singulier sur la question de l'honnêteté. Or, évidemment, ce n'était pas le sujet de cette campagne et ce n'est pas le rapport des Français à la morale et à la politique qui guide le rapport à ce qui tient ensemble une société, évidemment. Mais nous avions fait notre travail. Nous avions dit, et anecdote, puisque Brice en a parlé, j'ai fait venir devant mes étudiants un des responsables du Monde, le hasard fait que je déjeunais avec lui, Brice le sait, le Monde, comme les autres médias, avait entendu l'analyse des sondeurs qui disaient « Attention, si on poursuit les courbes, Jospin peut être au deuxième tour ». Et il y a eu un débat au sein du Monde. Et je ne dis pas que le Monde a eu tort. Le journal Le Monde s'est demandé s'il fallait mettre en une du Monde Le Pen au deuxième tour, point d'interrogation. Mon dernière interview dans Libération, car à l'époque je travaillais pour Libération, j'avais demandé à ce que soit titré l'hypothèque du deuxième tour, point d'interrogation. Alors il y a eu un débat au sein de la rédaction du Monde. Les sondeurs disaient, si on poursuit les courbes, Le Pen est au deuxième tour. Mais l'enjeu démocratique, c'est ce que disait Brice. C'est-à-dire que le débat au sein de la rédaction du Monde, ça a été de dire, si juste avant le vote du premier tour, on dit Le Pen pourrait être au deuxième tour, toute la France va accuser le journal Le Monde de façon très déloyale d'avoir fait peur aux Français pour que les électeurs de gauche qui allaient sur les autres électeurs, parce qu'ils trouvaient que Jospin ne disait rien, ils n'avaient pas complètement tort au premier tour, et pour leur dire « Attention, vous avez compris, Le Pen peut être au deuxième tour, et il faut voter Jospin au premier tour ». Donc il y a eu ce débat au sein de la rédaction du Monde. Et ils ont décidé de ne pas le faire. Parce qu'évidemment, derrière, s'il y avait eu ce titre du Monde, tous les autres médias l'auraient repris, et sans doute que peut-être Jospin aurait été au deuxième tour. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il aurait été de toute façon battu quand on comprend ce qu'aurait été sa bataille de deuxième tour en expliquant que Jacques Chirac n'était pas honnête. Mais néanmoins, vous voyez bien
là, on passe du débat de la déontologie des sondeurs à la déontologie des journalistes. Évidemment, il y a ce genre de débat, n'est-ce pas ? On est à l'avant-veille du premier tour. On pense que les sondeurs n'ont peut-être pas tort d'alerter, mais on n'en sait rien. La prise de responsabilité déontologique d'un journaliste. Donc, je ne dis pas le Monde a eu tort de ne pas mettre ça en premier tour. Je ne sais pas. Ensuite, ce sont des cas de conscience effectivement compliqués.
Juste en complément, parce que c'est un extraordinaire cas d'école, hein, ce qui s'est passé le 21 avril. D'abord, il faut se rappeler que du côté des journalistes, le troisième homme, pendant très longtemps, c'était Jean-Pierre Chevènement. Et nous nous sommes tués, je crois, tous les sondeurs à leur dire « Arrêtez avec cette fiction de Jean-Pierre Chevènement, troisième homme. Le troisième homme, ça ne sera pas Jean-Pierre Chevènement. » Alors nous disions « Ça sera probablement Jean-Marie Le Pen, ça a été le deuxième homme. » Donc il y a quand même eu un petit problème. Mais ça vous montre à quel point le système médiatique est capable de s'emballer et à quel point il est compliqué, il est difficile d'essayer de ramener les choses à ce qu'on pourrait rationnellement dire. Alors le débat du Monde, il est très intéressant parce que pour le coup, je rends hommage à mon prédécesseur. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon prédécesseur à l'époque à la Sofres, c'est Philippe Méché qui a appelé effectivement le responsable de la campagne chez Lionel Jospin et au Monde et qui leur a dit il y a une réelle possibilité d'un Jean-Marie Le Pen au second tour. Ça n'a pas fait l'objet d'une une, mais ça a fait l'objet, ce que tout le monde a oublié, d'un grand papier malgré tout dans le Monde. Mais voilà, à un moment donné, nous mesurons notre impuissance. Alors c'est terrible quand on nous perçoit plutôt comme des gens extrêmement puissants, voire manipulateurs. Nous, l'expérience que nous faisons, c'est plutôt celle de notre difficulté à faire passer les choses, notre difficulté à renvoyer des analyses qui seraient un peu, tout simplement, froides, rationnelles, surtout quand on parle du Front National. Un autre exemple, tout bête sur le Front National, mais le 21 avril a créé des croyances et de la méfiance à l'égard des sondages. Le second tour, nous l'avons très bien donné dans les enquêtes d'opinion. Parce qu'en réalité, on a eu un problème technique plus qu'autre chose, mais peu importe. Après la présidentielle, vous avez des régionales. Nous donnons le Front National à 15%, il fait 15%. Vous avez des européennes. L'instrument fonctionne très bien aussi sur les européennes. Mais pendant toute cette campagne, il y a eu une méfiance. Et quand au moment de la présidentielle, nous avions un Front National plus bas, on nous disait « Vous êtes trompé le 21 avril, vous êtes en train de vous tromper ». Alors même qu'il y avait eu toute une série d'élections intermédiaires où l'instrument avait bien fonctionné. Mais peu importe, il y avait des croyances. Et qu'est-ce qui se passe en 2007 ? C'est, si je puis dire, assez drôle, c'est qu'on surestime le Front National. Il fait 10,6. Tous, nous l'avons donné plus haut, à différents niveaux, mais nous l'avons donné plus haut, 12, 13, parfois plus. Et on nous a quand même dit bravo quand on le donnait à 12, 13. On a dit, ah, cette fois, vous n'êtes pas trompé. Ah oui, il y avait un écart de 3 points. Un écart qui valait celui d'avant. Alors, les conséquences n'étaient pas les mêmes. Mais régional, sous-estimation, dernière régionale du Front National, 3 points encore, en gros. Et là, on nous dit, ah, oh, ben, c'est affreux. Donc, vous voyez bien que les commentaires se font non pas sur l'analyse froide de la confrontation des enquêtes d'opinion avec les résultats électoraux, mais sous des effets qui sont des effets pulsionnels, émotionnels, et qu'on a énormément de mal, et Dieu sait si on essaye de le faire, si Stéphane a essayé, si j'essaye aussi avec mes petits moyens, de ramener ça des choses un tout petit peu plus tempérées.
Monsieur. Oui, après.
Qui est-ce qui commande les sondages ? Je suppose que les sondages coûtent assez cher, donc tout le monde n'est pas capable, n'est pas financièrement les moyens d'en commander. Alors, est-ce que ceci n'entraîne pas un biais dans les domaines dans lesquels il y a des sondages.
D'accord, merci. Ensuite, au fond. Rapidement, vous...
Qui commande les sondages ? Ben, y a des sondages de nature très différente. Pour ce qui concerne les sondages publiés, ce sont les journaux. Les journaux, dans les fiches techniques, doivent mettre qu'ils sont les clients, c'est-à-dire que c'est eux qui paient et personne d'autre. Pour les sondages confidentiels, il y a des sondages confidentiels qui sont faits pour les mairies sur l'attitude des citoyens, des mairies, et s'ils sont satisfaits ou pas de ce qui se passe. Donc ça, ce sont les municipalités qui paient, pour les départements, pour les régions. Quand il s'agit des formations politiques, ce sont les formations politiques. Là où les choses, mais normalement, c'est cadré, c'est la question des sondages pour les ministères pour le gouvernement, c'est-à-dire Matignon. Là, il y a une instance qui s'appelle le service d'information du gouvernement. Normalement, ces sondages confidentiels doivent porter non pas sur l'image politique du ministre, non pas sur des données politiques, mais sur des données qui ont rapport avec l'activité ministérielle elle-même. Normalement, ces choses-là sont suivies. Il y a des marchés cadres, il y a des éléments. Les sondages qui sont faits par l'Élysée, l'Élysée a un budget. Ce qui est vrai, et c'est assez normal, c'est que ça doit être le cas pour Brice. Autrefois, avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy, nous allions 10 fois à Matignon et puis 1 ou 2 fois à l'Élysée pour faire des choses. Bon. Là, les choses se sont inversées. C'est l'Élysée qui commande les sondages. Je trouve ça normal parce que c'est ce que les Français ont souhaité durant la présidentielle. Les Français ont souhaité que celui qui soit élu soit le détenteur du pouvoir. Les Français ont souhaité remettre à l'Élysée le lieu de l'incarnation et de la décision politique. Je ne trouve pas ça normal. Vous voyez donc que sur certains types de sondages, voilà, il faut être certain que ce qui est sur deniers publics concerne bien l'activité des ministères de Matignon et que par contre tous les sondages à vocation politique soient payés par la politique. Alors, votre question, elle va un peu au-delà. Vous êtes en train de dire, mais du coup, les sondages, ça coûte cher. Alors, des questions, une question d'opinion confidentielle ou non, c'est, je sais pas, 800 euros, 1000 euros, une question, ça coûte de l'argent. Les études qualitatives, c'est pas, on n'interroge pas 1000 Français, on interroge des groupes d'une dizaine de Français. Ce sont ces études-là qui coûtent cher parce qu'on travaille avec des psychosociologues. Il ne s'agit pas de mesurer ce que pensent les Français, il s'agit de comprendre. On ne se contente pas de dire les Français disent ça et puis ils veulent ça. Non, on essaye de comprendre pourquoi. Et si on a compris le pourquoi, on fait des préconisations stratégiques. Ce sont ces études qui coûtent cher. Alors, c'est vrai, monsieur, vous avez raison. Selon que l'on ait une formation politique qui a des moyens et une formation politique qui n'en a pas, ça fait de facto, sur la compréhension de la société, ça fait de facto une inégalité. Nous n'avons pas le monopole de cette inégalité quant à la capacité d'accéder au savoir et à la compréhension. Ça vaut sur le coût des tracts. Alors, il y a des lois de financement public des formations politiques qui, heureusement, ont un peu rétabli les choses, qui ont assaini les sources de financement occultes qui, normalement, n'existent plus. Mais nous n'avons pas le monopole, effectivement, du fait que l'accès aux sondages coûtant cher, eh bien, il y a des formations politiques qui peuvent se payer des sondages et des formations politiques qui ont moins accès à ces sondages.
Oui. C'est un peu le même genre de question. C'est pour savoir, en fait, un média ou un parti politique qui demande un sondage et vous dites qu'il a l'autorisation de ne pas la publier, est-ce que le média a toute autorisation sur le sondage et à ce moment-là, avec de l'argent, il pourrait demander plusieurs sondages et en modulant les variables des questions demandées à la population et donc moduler les chiffres et donc manipuler la démocratie en quelque sorte. En demandant 5 sondages différents et n'en publier qu'un à la fin, selon les pourcentages.
Si j'étais cynique, je vous dirais, qu'un institut pourrait rêver de ce genre de pratique et de médias qui auraient suffisamment d'argent pour lui acheter 5 sondages pour n'en publier qu'un seul. Mais très sincèrement, on est dans quelque chose qui relève du fantasme. Il y a une vraie question, un vrai problème sur le financement des enquêtes, puisque le modèle économique des médias aujourd'hui fait qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter des enquêtes ou des enquêtes approfondies. Et ce que nous constatons, c'est plutôt un appauvrissement des enquêtes publiées avec de moins en moins de questions. Sur la question de l'éventuelle manipulation, donc jamais les médias ne font ce que vous décrivez, jamais un institut ne l'accepterait, parce que d'abord, il y a quand même des lois, il y a quand même une déontologie. Et puis, sachez aussi, Stéphane l'a dit, mais c'est important de le rappeler, que nous pouvons avoir des liens d'estime entre sondeurs, voire des liens d'amitié, Mais nous sommes en concurrence féroce. C'est l'idée de la connivence entre sondeurs, c'est là aussi, pardon de le dire un peu vulgairement, une vaste blague. Nous sommes en concurrence, et donc l'Institut qui commencerait à s'amuser, à vouloir, pour le plaisir d'un média ou même d'un candidat dans une campagne, jouer comme ça avec des résultats, il se ferait immédiatement mitrailler. Et quand vous constituez un capital de marque, comme celui de la Sofresse ou comme celui de CSA, vous avez mis des décennies à construire en termes de crédibilité, dont les revenus découlent non pas des sondages publiés, mais des sondages qui sont réalisés dans le marketing, vous n'allez pas fracasser l'image et la crédibilité de l'Institut pour faire plaisir à tel ou tel média. Donc la concurrence est un frein, la déontologie existe, le droit existe, parce qu'il y a des règles, notamment la commission des sondages, et puis j'ai envie de dire que le modèle économique fait qu'aujourd'hui, on ne s'amuse pas à ce genre de choses. La véritable question, je crois, c'est celle que vous avez posée sur un certain nombre d'enquêtes qui sont faites par des organismes qui peuvent avoir les moyens, donc là je ne pense pas aux médias, et du coup l'inégal accès à ces enquêtes-là. Ça rejoint le problème des, entre guillemets, petits candidats ou des sortants par rapport aux challengers, les sortants ayant en général plus de moyens pour acheter des enquêtes d'opinion.
Madame. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question technique. Je voudrais savoir comment s'élabore un sondage et comment vous parvenez si rapidement, peut-être le temps d'une émission télévisée, à donner des résultats aussi fiables.
Votre conclusion est déjà très aimable.
Le principe du sondage, madame, est très simple. Ce sont des lois de statistique du début du XXe siècle. C'est que plutôt que d'interroger une population entière, il suffit de prendre un modèle réduit de la population. Grâce à l'appareil statistique de l'INSEE, statistique d'État, nous sommes très pointus sur les populations interrogées, de sorte que, en interrogeant 1000 personnes, pourvu qu'ils aient les caractéristiques précises sociodémographiques de la population française, on ne gagnerait pas, ça coûterait beaucoup plus cher, sans beaucoup plus de précision marginalement, que d'interroger 5000 ou 10000 personnes. Donc un sondage de 1000 personnes. Alors maintenant, les méthodes téléphone nous permettent effectivement, dans la journée, très vite, d'avoir des résultats. Il y a un débat dans la profession sur la fiabilité des études Internet. Personnellement, quand j'ai quitté CSA, je n'en étais pas encore tout à fait convaincu. Alors même que les études Internet, coûtant beaucoup moins cher, la marge de profitabilité des instituts est très importante. Bon. Mais il est possible que très rapidement, Internet démontre les éléments de fiabilité. Bon. Mais les choses sont très simples. Alors ensuite, il y a d'autres types de débats techniques. Je crois que le sujet, là, c'est pas tant la qualité technique. Ensuite, on a été interrogé sur mais est-ce que vous accédez au mobile ? Oui, on accède au mobile. Est-ce que vous accédez au numéro confidentiel ? Oui. Est-ce que les gens ont tendance à moins répondre ? Oui, c'est vrai. Ils ont tendance à moins répondre, mais on a encore les éléments statistiques de redressement pour que le sujet de la qualité des sondages ne soit pas la question du recueil. Il y a encore une fois un sujet sur Internet. C'est surtout d'autres questions qu'a évoqué Brice, c'est la formulation des questions, le fait de bien savoir poser dans l'ordre les questions de sorte qu'il n'y ait pas de biais, des choses comme ça. Mais le sujet n'est plus trop, selon moi, sur les questions de recueil technique. Mais vous avez raison, dorénavant, on peut très rapidement avoir la réaction des Français à une émission télé en 2-3 heures. Il suffit d'y mettre le nom d'enquêteur téléphonique suffisant.
Ce qu'il faut peut-être, oui, rajouter, c'est que tous les modes de recueil ont des biais. Moi, je fais un cours à Sciences Po où j'essaye de montrer à mes étudiants tous les biais auxquels nous faisons face. Donc, c'est une course permanente pour essayer de lutter contre des biais. Le téléphone a des biais. Stéphane l'a évoqué, la question des mobile only, des gens qu'on ne peut pas toucher par téléphone, ça peut être un biais potentiel. Alors, on travaille, on fait de la R&D pour essayer de les contrebalancer. Sur Internet, il y a, quand on est sur des échantillons nationaux représentatifs, il y a encore des biais parce que les gens, notamment les personnes âgées qui auront 70, 75 ans, que vous allez pouvoir toucher par des questionnaires online, eh bien pardonnez-moi, mais ils sont un petit peu typés. Voilà, quelqu'un qui aujourd'hui est branché sur un ordinateur ou qui est dans un panel d'internautes pour un institut en online et qui a 70-75 ans, ça veut dire qu'il a un rapport à la technologie qui est un petit peu typé, parce qu'il y a encore un taux de pénétration qui ne s'est pas fait de manière maximale. Donc ces biais se réduisent, mais ils ne sont pas encore totalement résolus. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il y a un mode de recueil qui serait la martingale. Certains se sont amusés à essayer de faire croire ça, c'est faux. Moi, j'essaye véritablement de dire pourquoi tous les modes de recueil ont chacun leur biais et comment nous essayons de trouver les moins mauvaises techniques. C'est une façon aussi de dire qu'il y aura toujours un petit décalage. On ne peut pas, et heureusement, on ne peut pas dire qu'on arrivera à cerner, même 48 heures avant, exactement ce qui va se passer le jour du vote.
On va prendre encore une ou deux questions, parce qu'on va avoir un temps de coupure suffisante. Ici, non, non, là, au milieu, là, il y avait une, là. Et puis madame, les deux, monsieur.
Bonsoir et merci pour cette conférence. Je voulais poser une question parce que les instituts de sondage existent depuis pas mal d'années et tout scientifique sait que une mesure sur un élément influe sur l'élément mesuré. Alors pourquoi les instituts de sondage en fait n'ont pas construit des outils ou des systèmes statistiques qui permettent de mesurer votre influence sur l'opinion publique?
Il y a plusieurs raisons. Il y a des formules toutes faites, pardonnez-moi aussi de le dire. À un moment donné, il y a une formule qui faisait fleurir, elle était jolie mais totalement absurde, c'était « les sondés manipulent les sondeurs ». Voilà. Quand on disait que les sondages avaient des problèmes de représentativité et que justement le sondé savait quel était son rôle, il allait répondre de manière un peu biaisée. Quand j'ai demandé aux auteurs de ces formules magnifiques sur quoi ils s'appuyaient pour affirmer ça, j'avais un vide sidéral. Alors, ça ne répond pas à votre question qui est pourquoi est-ce que nous ne travaillons pas sur des modèles expérimentaux pour essayer de mieux comprendre l'influence éventuelle des sondages sur l'opinion publique. Pour deux raisons. D'abord, nous le faisons quand même, nous le faisons en partie. Mais ce sont des modèles très lourds, si on veut être rigoureux et précis, et nous ne sommes pas des instituts de recherche. Nous ne sommes pas le CNRS, nous ne sommes pas le CEVIPOF. Nous avons besoin d'avoir un modèle économique qui nous permette de travailler. Et du coup, quand vous êtes dans un institut qui dégage suffisamment de profit, il peut en consacrer à de la R&D, et donc faire des travaux comme ça d'analyse et de recherche, c'est vraiment de la recherche sur les modes de recueil et éventuellement aussi sur l'influence. Donc on a posé par exemple des questions déjà sur la façon dont les gens percevaient les sondages. Est-ce qu'ils croyaient à la vérité des sondages? Est-ce qu'ils en tenaient compte? Moi j'ai posé à une époque des questions pour essayer de savoir si les gens mémorisaient ce que les enquêtes d'opinion disaient, en leur demandant aujourd'hui que disent les sondages d'opinion sur qui est en tête dans la compétition électorale. Déjà, on se rend compte que les sondages, ça rentre parfois par là et ça sort très très vite de l'autre côté. Donc on essaye en partie de le faire. Pour cela, il faut que le modèle économique soit là. Et pardonnez-moi de le dire, je ne tords pas la sébile, mais c'est une profession qui, en réalité, a raté ses objectifs de rentabilité. Quand j'entendais Stéphane dire avec le online, les marges de profitabilité sont supérieures, j'aimerais qu'il en soit ainsi, sauf que comme les clients sont persuadés que le online, ce n'est pas cher, il y a une baisse des prix dans ce métier qui continue depuis une dizaine d'années. Donc c'est aussi une limite à la recherche et à la R&D qu'on pourrait faire en interne.
Oui, pour aller dans le sens, Brice Teinturier l'a dit, nous avons des rapports cordiaux, voire amicaux, mais nous sommes très concurrents. Donc il faut quand même comprendre que même si on n'a pas énormément d'argent à consacrer à la R&D, on essaye quand même de comprendre. Si l'un d'entre nous a la martingale, il ne va pas le dire aux autres et il va essayer de faire la démonstration qu'il est meilleur que les autres. Bon. Alors moi, je me suis livré une fois une expérience et j'ai pu le faire, ça m'a coûté rien du tout. Pourquoi ? C'était après les avant-dernières municipales, nous avions eu la chance de travailler pour France 3 et la PQR et nous avions publié 80 sondages en municipalité. Lorsque l'on comparait ces sondages avec les résultats finaux, c'était assez réparti, il y avait 3/3. 1/3, l'écart entre nos intentions de vote et les votes était vraiment très faible. 1/3, les écarts étaient assez importants, mais on avait donné le vainqueur. Et 1/3, le vainqueur final n'était pas celui annoncé par le sondage. Alors, On a fait travailler une petite équipe, dont je crois me souvenir quelqu'un qui maintenant est à la Sofresse, si ma mémoire est bonne, un des directeurs de Brice-Ceinturier. Donc j'ai fait travailler une équipe de 3 personnes là-dessus, pour essayer de voir si... Alors, les sondeurs, on vous a toujours dit, hein, les sondages d'intention de vote, c'est des photos, c'est pas des anticipations. Mais à partir de cet exemple, on a essayé de comprendre si on arrivait à trouver la martingale, parce que quand on publie un sondage à Troyes, à Toulouse, que les gens ne savent absolument pas les rapports de force et qu'on leur dit, eh bien le rapport de force aujourd'hui c'est ça. Je me souviens d'une discussion avec Philippe Douste-Blazy que j'ai vu il y a 3 semaines là-dessus, sur ces questions-là. Vous comprenez bien que dans une municipalité, quand le gros titre de la PQR et France 3 Régions dit « on est en train de vous annoncer que le deuxième tour, si l'élection avait lieu aujourd'hui, ce serait ça », ça impacte terriblement la ville. Et donc, eh bien, on n'a pas réussi à trouver ça. Hein, ni, les Américains ont beaucoup plus travaillé que nous, ils ont plus de moyens. On n'a pas réussi à déterminer si on donnait dans un sondage l'avantage à quelqu'un, si ça entraînait ce que disait Brice tout à l'heure, le fait que les gens volent au secours de la victoire, ou au contraire, la victoire étant acquise, pourquoi se mobiliser, et par contre, le camp d'en face est mobilisé. Donc, en un mot, on aurait bien aimé à l'époque à CSA trouver une ligne de pente, une variable explicative de ces écarts, et malheureusement, on les a pas trouvés.
Et en 1995, il y avait déjà eu des problèmes en réalité sur l'ordre d'arrivée à la présidentielle du candidat, et Jospin avait créé la surprise puisqu'il était arrivé beaucoup mieux noté et dans un ordre différent que ce que les instituts avaient indiqué. À l'époque, il y avait eu tout un discours sur les quotas et le niveau de diplôme. On a fait travailler, nous à la Sofresse, les gens du CEVIPOF, on a repris toutes nos enquêtes, on a retravaillé sur cette variable-là, et on s'est aperçu, la conclusion, c'était quand même que ça n'aurait changé que très marginalement les choses. Donc on essaye de faire de la R&D, on en fait le plus possible et le mieux qu'on peut, mais la question que vous soulevez sur l'influence des sondages publiés est une question qui appellerait des protocoles extrêmement lourds, en réalité, gigantesques. Et ça, ce serait soit aux instituts dans leur ensemble à le faire, mais ils sont concurrents quand même, soit au CNRS peut-être davantage encore, sans se défausser.
Hein. Dernière question.
Alors, moi, la question que je me pose en ce qui concerne le financement et l'indépendance donc des instituts de sondage, mais est-ce que ce ne serait pas plus simple si l'INSEE se chargeait de certains sondages, et je ne sais pas très bien comment se répartissent les compétences en fait, entre l'INSEE et les instituts de sondage privés. Voilà. Merci.
L'INSEE est un très bel organisme qui fournit des données objectives, qui réalise des sondages sur le moral. Honnêtement, la nature humaine étant ce qu'elle est, je ne suis pas certain que si les sondages étaient pris en charge par un seul organisme, fût-il d'État et même peut-être d'État, ça donne des grandes garanties, parce qu'il y a eu des histoires où des régimes politiques avaient le monopole des études, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était vraiment pas une garantie. Donc la profession croit beaucoup plus à la concurrence. Vous savez, c'est ce que disait Brice tout à l'heure. La réputation des instituts, elle se construisent dans le temps. Si d'aventure un institut s'écartait un tout petit peu de ce que la profession, le personnel politique et les journalistes comprennent de l'honnêteté, de la qualité du travail, ça se remarquerait tout de suite. On pointerait tout de suite le fait qu'il y aurait un sujet avec un institut de sondage. Tout dirigeant d'institut de sondage ne peut pas se permettre de prendre un tel risque. Donc ça nécessite évidemment une force de caractère, Brice l'a dit, de la part des dirigeants d'instituts de sondage pour tenir ferme. Il y a pour ça des appuis, il y a la concurrence, il y a le fait que n'importe quel confrère peut poser le même type de question ou approchant sur le même sujet. Il y a les questions de déontologie, c'est que ce n'est pas le journal qui doit décider si une partie des questions est mise de côté. Le journal a le droit de publier tout ou de rien publier, mais il n'a pas le droit de publier une partie du sondage. Pendant la présidentielle, j'étais en difficulté, mais le journal a obtempéré avec un de mes clients habituels parce qu'il aurait pensé éventuellement mettre une question de côté. Mais j'ai rappelé à ce client que tout le sondage était déjà sur le site internet de mon institut. Donc, il y a des règles déontologiques, il y a le regard entre les professionnels. Hein. On connaît la musique, hein. Brice et moi, on est depuis une vingtaine d'années. On connaît toute la musique, on connaît tous les types de pressions explicites ou implicites qu'on a pu connaître, et on sait que la capacité de dire non est une capacité tout à fait décisive. On ne dit jamais non brutalement, mais on fait passer le message parce que tout le monde est civilisé. Donc je crois beaucoup plus à la concurrence, au travail de la commission des sondages quand elle fait son travail, et puis à la réputation de sérieux des instituts, qui fait que grosso modo, voilà, il y a des hiérarchies. Mais encore une fois, notre profession, j'en parle d'autant plus facilement que je l'ai quittée, donc c'est plus notre profession, mais la profession que j'ai quittée est une profession qui déontologiquement, alors on peut faire des erreurs. Moi, des fois, quand je dirigeais CSA, j'ai pu être accablé de que des questions soient posées de telle façon. J'ai pu avoir, en 20 ans, il m'est arrivé un problème technique d'évaluation d'une force politique. Donc, tout le monde fait des erreurs, bien sûr. Quand au quotidien, toutes les semaines, on sort, c'est pareil pour Brice, hein, 2-3 sondages publiés par semaine. Quand on fait ça pendant 20 ans, donc on fait toujours des erreurs. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la question de l'honnêteté. C'est la compétence, bien sûr, mais ça s'acquiert, on voit vite. Bon. Et derrière, c'est la question de l'honnêteté. Quelqu'un qui sort des clous, tout de suite, il y a un sujet, il y a une rumeur, et c'est quelque chose qui n'est pas possible pour un institut.
Juste pour compléter, votre hypothèse peut être très tentante. Elle est très française, c'est-à-dire qu'il y a un présupposé qui est effectivement que si c'est la puissance publique qui faisait les sondages, les choses se passeraient ipso facto très bien en termes de déontologie. Elle me fait personnellement un peu froid dans le dos, parce que l'histoire nous démontre plutôt ce qu'a dit Stéphane, que quand il y a un monopole étatique de l'information et des enquêtes d'opinion, ça se finit pas très très bien. Mais surtout, je crois que c'est dans le pluralisme et la concurrence donc, qu'on obtient des garanties. Et sur un phénomène nouveau, c'est ça que je voulais ajouter, mais qui est intéressant, qui est que les instituts de sondage maintenant, pour le coup grâce à Internet, font leurs propres commentaires et les mettent en ligne. Et ça, c'est une garantie supplémentaire par rapport à l'usage que certains médias ou certains acteurs peuvent faire de nos enquêtes publiées, parce que ça nous échappe une fois que c'est rendu aux médias. Et moi, je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, et j'étais un petit peu étonné, qui m'avait dit, j'ai bien remarqué que quand vous faites votre commentaire là, en ligne sur la vague que vous venez de publier, vous rectifiez ce que le média a dit que disait votre sondage. Et il avait tout à fait raison, je faisais cela. C'est-à-dire que quand le commentaire me paraissait détourné ou ne pas être totalement conforme à ce que j'estimais à tort ou à raison être l'analyse qu'il fallait faire du sondage, j'essayais autant que faire se peut de rectifier le tir à travers ce qui devient nos propres sources de médias. Ça, c'est un phénomène nouveau, c'est un phénomène intéressant parce qu'il rajoute au pluralisme par la concurrence entre instituts de sondage la possibilité à chaque institut de davantage médiatiser ce qu'il pense être son analyse à lui.
Écoutez, nous vous remercions.
Merci.